Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Julien, avant que je vous dise bonjour, ça ?
Ça ?
Ouais.
Ça doit être un cédra, non ?
Oui, ouais, exactement.
Et ça, c'est un navet, non ?
C'est un cousin.
Oui, c'est un cousin du navet.
C'est
ouais.
Le chourave.
C'est ça, c'est du chourave.
Qu'on peut manger cru et cuit.
Oui.
Ce qui est pas mal. Pour débuter l'année, on a besoin de cru et de cuit.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis et bonne année. Elle commence bien, je peux vous dire, parce que j'ai le plaisir d'accueillir une grande voix de la chanson française pour démarrer 2022. Julien Clerc est avec nous, je vous le présente dans un instant. Le jeune chef Adrien Ferrand va conjuguer gourmandise et légèreté pour nous. Lilia Hassen, chroniqueuse dans l'émission Quotidien, est aussi écrivain. Elle va nous rejoindre avec son deuxième roman Soleil amer. Et Emmanuel Rubin, notre gastronome du dimanche, sera de la partie. Voilà, vous savez tout. Bonjour Julien Clerc.
Bonjour et bonne année.
Et bonne année. Qu'est-ce que je vous souhaite alors pour 2022 ?
Ah bah écoutez, alors là, je prends la route. Vous ne pouvez que me souhaiter une bonne tournée.
Elle est dingue, votre tournée. Combien de dates ? Mais une centaine de dates, hein, j'ai l'impression.
Oui. Il y aura plus, je pense. Oui.
Une grande tournée, un grand album, Les Jours Heureux, on va en parler et puis on va écouter surtout un extrait à bicyclette tout à l'heure. J'ai eu la chance de vous voir sur scène l'année dernière en décembre au Palais des Congrès, on en reparlera parce qu'il faut vraiment venir vous voir en tournée Julien Clerc. Dimanche, 11h passée, qu'est-ce que vous faites d'habitude le dimanche à cette heure-ci ?
Si je n'ai pas fait mon marché la veille, j'ai un marché de rattrapage le dimanche matin.
Ah.
Donc, bien souvent, à cette heure-ci, je suis au marché, pour vous dire la vérité.
Vous êtes parisien ou vous vivez à la campagne ?
Non, j'habite pas loin de Paris.
Pas loin de Paris.
À Vaucresson, j'ai la chance d'avoir deux marchés. Et donc, je navigue entre le marché de la Salle-Saint-Cloud et le marché de Vaucresson, où il y a des très, très, très bons commerçants. Et dans chaque marché, j'ai mes commerçants. C'est pour ça que souvent, je fais les deux marchés.
Alors, je me suis renseigné. Je sais que vous êtes gourmet et gourmand, Julien Clerc. Alors...
Ah, c'est-à-dire surtout que je cuisine.
Oui.
C'est moi qui cuisine à la maison. Mais je cuisine pour... D'ailleurs, je fais sans doute ce qu'on appelait à l'époque une cuisine de femme.
Cuisine de ménage.
Voilà. Et parce que c'est moi qui nourris la famille, finalement. Donc, c'est pour ça que je fais souvent mes courses et que je suis obligé de penser à mes menus de la semaine.
Voilà, vous faites presque du batch cooking, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire
c'est ça.
Vous pensez à vos menus et vous cuisinez un petit peu à l'avance pour avoir des choses aussi.
Exactement.
Bravo. Je vous présente Adrien Ferrand, jeune chef des restaurants Hills et Brigade du Tigre dans le 10e arrondissement de Paris. Il pratique une cuisine aux influences asiatiques. Donc on se disait que pour démarrer l'année, c'était pas mal ça, hein, de commencer avec de la légèreté, de la gourmandise à la fois, Adrien.
En effet, oui, je pense que ça va nous faire du bien après les repas de fête qui ont été assez
copieux.
Opulents.
Ouais. Ben oui, c'est ça, entre la bûche, le foie gras et les volailles.
Exact, oui.
Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui alors ?
Bon, on va y aller tout en fraîcheur, un petit bouillon pour commencer, ça va nous faire du bien à la ligne, mais avec pas mal de gourmandise, on fait un bouillon de canard.
Ah oui.
Donc il n'y aura pas de canard, mais il y en aura tout le goût.
Il y aura pas, ça veut dire quoi c'est
Qu'on le fait avec les manchons et les cuisses de canard.
D'accord,
mais
oui.
Voilà, ce sera que le bouillon avec quelques légumes, de la pâte de pistache de Bronte, des pistaches de Bronte également, huile d'olive, fenouil et bergamote.
Ça, c'est pour l'entrée.
Et en
plat, alors, qu'est-ce qui nous attend ?
Et pour le plat, on part en Bretagne et on va essayer de croquer la mer avec un poisson cru mariné. Donc, c'est une dorade royale de ligne. Et avec ça, on a fait une vinaigrette à base d'algues. On a fait une purée de chourave, donc un légume qui est très iodé. Quelques agrumes, quelques herbes, ça va nous faire du bien.
Julien Clerc, alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça ? Ça vous fait envie ?
Ça évoque les bons produits, forcément. Et moi qui ne suis pas un cuisinier professionnel, donc qui ne suis pas un saucier, en fait, j'essaie toujours de baser, moi, mes trucs sur le produit. Ça commence par le bon produit. Donc là, la dorade de ligne, c'est un de mes poissons préférés. La dorade, donc je suis enchanté. Et le bouillon de canard, je trouve ça une super idée.
Alors pour beaucoup de Français, le dimanche, c'est l'occasion de prendre du temps, comme vous dites, en cuisine et d'aller au restaurant aussi et de se faire inviter. Vous êtes de quelle école plutôt, vous ?
D'abord, je vais vous dire la vérité, c'est que ça fait un certain temps que je ne vais plus trop au restaurant,
ouais.
Malheureusement. Bon, mais Sinon, j'adore inviter au restaurant, surtout si c'est chez un chef que je respecte.
Oui, je vous ai croisé déjà dans certaines adresses parisiennes à l'heure du brunch le dimanche
midi. Oui, oui.
Vous aimez ça, cette ambiance de brunch un petit peu?
Oui, j'aime bien le brunch. Oui, j'aime bien.
C'est un peu années 80, mais moi, je continue
j'aime
à bien
aimer
ça. Moi.
J'aime bien tout quand à partir du moment où c'est authentique comme cuisine et où on mange bien. Voilà.
Et côté musique, c'est pareil. Le dimanche, on a peut-être un petit peu plus de temps pour écouter des albums, pour écouter de la musique. C'est le cas aussi pour vous à la maison?
Pas vraiment, parce que pour vous dire la vérité, moi, j'écoute beaucoup de musique dans ma voiture. Donc, c'est à mon sens un bon système de son dans une voiture. Il n'y a rien de mieux pour écouter la musique.
Et puis, on peut chanter.
Et voilà, on ne dérange personne. Et donc, j'aime beaucoup écouter de la musique. Non, je vais vous dire la vérité, le dimanche, c'est plutôt la télé quand il y a du sport ou un film.
Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment comme musique?
D'abord, j'écoute tout ce qui sort dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de très bons jeunes artistes en France. Donc, les nouveaux disques, et pas que des jeunes artistes, le nouvel album de Lavilliers est formidable. L'album de Juliette Armanet est formidable. Ne parlons pas de celui de Clara Luciani qui est formidable.
Qui a écrit un titre pour vous dans Terrien, votre précédent album.
Voilà, j'ai pas encore écouté l'album d'Aurel San, mais le rap n'est pas ma musique, mais j'aime beaucoup le travail que fait Aurel San. Voilà, en voilà quelques-uns.
Vous aimez être entouré de la jeune génération depuis toujours. Hein. Vous dites qu'elle sent l'air du temps et que vous aimez bien leur proposer.
C'est pas, entre autres, mais la chose, c'est que moi, je suis compositeur, donc j'écris les musiques. Donc, toute ma vie, j'ai cherché des auteurs, si vous voulez. Toute ma vie, j'ai cherché des mots à mettre en musique. Et maintenant, comme je chante depuis plus de 50 ans, eh bien, oui, c'est vrai que j'ai vu défiler, travailler avec moi, on va dire, plusieurs générations d'auteurs. Et par force, aujourd'hui, je me retrouve avec des nouveaux auteurs, la nouvelle génération. Or, je crois qu'il y a, en France, la musique évolue comme partout au monde, mais cette spécificité française d'écrire de beaux textes, ça reste présent en France. Donc, c'est un bonheur de travailler avec des gens de la nouvelle génération qui écrivent aussi bien que leurs aînés. Et en particulier, ça, c'est un signe des temps aussi, il y a plus de femmes qu'avant.
C'est vrai. Et c'est peu dire que vous êtes sensible aux beaux textes, parce qu'avec cet album Les Jours Heureux, on retrouve Barbara, on retrouve Traîné, on retrouve le grand oublié, je trouve, Becco, qu'on a un peu mis de côté ces dernières années.
Et que vous faites... Il est dans un purgatoire dont il sortira, et il en sortira par son œuvre.
Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Nous voilà en cuisine autour de Julien Clerc avec le chef Adrien Ferrand au fourneau. Alors, on explique à nos auditeurs que nous ne sommes pas en studio. On n'est pas au studio Coluche comme on l'est le samedi à la table des bons vivants. Nous sommes dans une cuisine dans le 15e arrondissement de Paris. Un joli plan de travail bien équipé avec une belle mise en place de la part d'Adrien Ferrand. Et on passera à la salle à manger tout à l'heure avec Emmanuel Rubin, entre autres, qui sera avec nous. Et puis Lilia Hassen, romancière, nous retrouvera. Comment se passe la mise en place alors, cher Adrien?
Écoutez, très bien, on est plutôt confort dans ce local.
Ah, c'est pas mal.
Il fait chaud, il y a un beau fourneau, on a des beaux invités.
C'est important l'ambiance aussi hein, pour cuisiner, Julien Clerc, la lumière.
Bien sûr, la lumière, la cuisine, alors évidemment tous les gens qui cuisinent le savent, même les amateurs comme moi. On est assez méticuleux, on va dire. On sait où se rangent nos affaires, nos couverts, nos plats. Et
Qui vous a donné le goût de cuisiner?
Je pense que c'est ma mère. Et ma mère et son père, mon grand-père. Donc. Mon grand-père était guadeloupéen, donc il était très bon cuisinier. Il faisait très bien les plats antillais. C'est pour ça que... Vraiment, ma Madeleine de Proust, par exemple, c'est le courbouillon de poisson, hein, comme on fait aux Antilles.
Mais
oui, lui, il le faisait avec le maquereau, alors qu'aux Antilles, ils font ça avec les poissons de là-bas, évidemment. Mais là, lui, il le faisait avec le maquereau. Et j'ai toujours adoré ça. Mais généralement, tout plat qui contient un peu de tomate, du poisson, du riz et du piment me convient.
Alors, vous avez chanté votre double enfance dans cette belle chanson, justement, double enfance. Hein, vous l'avez raconté, vos parents ont divorcé quand vous étiez très, très jeune. Vous avez eu cette double culture culinaire, si je puis dire aussi.
Double culture culinaire qui s'est incarnée dans deux femmes, en fait. Donc, ma mère. Et puis, du côté de mon père, il y avait une cousine plus âgée que lui quand on allait en vacances à la campagne. Et alors là, c'était vraiment, dans le Poitou, une cuisine purement paysanne. Mon frère et moi, Gérard et moi, en plein mois d'août, on passait souvent 2 mois de vacances là-bas, on se levait, je me souviens, au moment des vendanges, et on allait petit déjeuner avec eux. On adorait ça. On avait la route à traverser. Et on se levait à 6 heures pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec eux. Où là, c'était des plats salés, évidemment des plats roboratifs. Il y avait généralement évidemment, des mojettes, du poitou, des haricots blancs là, cuisinés, sautés à la poêle comme ça frit. Il y avait souvent du civet, il y avait souvent des rillettes. Et c'était celle qu'on appelait Tata Rolande qui était à la tête de ces fourneaux-là. Et c'est resté c'est à la fois une Madeleine de Proust, mais en même temps une cuisine que j'aime profondément, tout en sachant que la cuisine, c'est le coup de main. Vous avez beau prendre une recette de quelqu'un que vous aimez bien, même d'un autre amateur, vous ne la ferez jamais aussi bien que
lui. Ça n'aura jamais le même goût.
Jamais le même goût.
C'est le mystère de la cuisine, ouais. Ça. Hein, c'est marrant. Et côté musique, est-ce que l'ambiance était différente aussi? Est-ce qu'on n'écoutait pas la même chose selon que vous soyez chez votre père ou votre mère?
Oui, pas du tout. Donc, ma belle-mère qui m'a élevé et qui est la mère de mes 5 frères et sœurs, c'était une musicienne, je veux dire amateur, mais elle faisait du clavier, du clavecin. C'était musique classique à 200%, alors que quand j'allais chez ma mère, c'était plutôt chanson française et jazz, ce qui a été pour moi très formateur et très enrichissant, parce que la musique était omniprésente à cause de ces deux femmes. Et c'était très enrichissant que ça soit si différent dans chaque foyer.
On retrouve la musique que votre maman écoutait dans cet album, hein, dans Les Jours Heureux, beaucoup. Vous les chantez, ces jours heureux, sur scène aussi, dans votre tournée actuellement, Julien Clerc. Ils sont derrière nous, les jours heureux, ou ils sont devant nous, alors?
Ils sont devant nous, on l'espère, parce que d'abord, pour un chanteur, retrouver le public, c'est forcément des jours heureux, quand il n'a pas pu le faire pendant longtemps.
Et vous sentez, j'imagine, cette émotion. Moi, je suis venu vous voir en décembre au Palais des Congrès à Paris. Le bien que ça fait de vous retrouver sur scène et cette communion avec les gens qui se lèvent, qui viennent chanter avec vous. Oui, il y a ce besoin, mais vraiment physique, de se retrouver.
Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, c'est quoi cette herbe-là?
C'est du basilic thaï.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on va en faire de ce basilic thaï?
On va le mettre à la fin sur le bouillon. Ça va nous apporter...
Il n'a pas du tout la même odeur que le basilic, que le basilic du sud, là, d'Italie.
Non,
de
en effet.
Hein.
Il est plus qu'enfré, celui-ci, effectivement.
Ça sent bon.
Le même goût. Hein. On peut dire que si vous n'aviez pas été en vacances en Corse, vous ne seriez pas chanteur, Julien Clerc. J'aime bien donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur.
Ouais, vous avez raison. C'est parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais pas après, de toute façon... à travers quand j'ai commencé à composer, peut-être que. Mais là, on va dire que en Corse, c'est quand je faisais du camping avec un copain, et puis il y avait des musiciens qui sont arrivés qui n'avaient pas de chanteur. Je sais pas ce qui m'a pris par la tête de leur dire que je pouvais tout à fait chanter avec eux. Et on chantait le hit parade de l'époque.
C'est ça.
Voilà, on chantait. J'avais appris à toute vitesse dans la tente, parce qu'on campait avec un copain. J'avais appris à toute vitesse les chansons qu'on devait chanter le soir avec les musiciens. Il y avait un peu de Kinks, beaucoup de pop anglaise, beaucoup de R&B. 2-3 chanteurs, ils jouaient 2-3 trucs français, dont les élucubrations d'Antoine, les Playboys de Dutronc, etc. J'avais appris tout ça en un après-midi, et puis je m'étais lancé le soir. Je ne sais franchement pas ce qui m'avait pris de dire que j'étais capable de chanter tout ça, parce que je ne l'avais jamais fait. Mais je me suis lancé. Et j'ai quand même vu ce jour-là, même si c'était beaucoup des copains qui étaient dans cette boîte, une boîte qui s'appelait Le Bout du Monde, qui était à l'autre bout de la plage de Calvi. Et là, je m'étais lancé. Et j'avais bien vu quand même que je chantais complètement instinctivement, mais j'avais bien vu que ma voix ne laissait pas indifférente quand même.
Et après ça, retour à Paris.
Retour à Paris, où j'ai continué... pendant plusieurs mois à chanter avec ces mêmes musiciens. On passait dans des boîtes, etc. Le Rock'n'Roll Circus, par exemple. On s'était fait virer, d'ailleurs, parce qu'on n'était pas assez bons. Mais, et puis, parallèlement à ça, je m'étais mis au piano pour essayer d'inventer ma propre musique, on va dire.
C'est là que vous rencontrez le grand Étienne Rodagil à l'écritoire, à Paris. C'est vrai que c'est cette légende que vous vous levez et vous dites, est-ce que quelqu'un sait écrire des paroles dans ce bistrot ?
Parce que c'est ce que je vous ai dit au début de notre conversation. Déjà, j'avais pas de texte.
Oui, c'est ça.
Donc, j'ai composé plusieurs mélodies. Quand j'ai vu que j'étais capable de composer des mélodies, je me suis dit, peut-être que je peux en faire ma vie. Mais maintenant, il faut que j'aie des paroles. Et je connaissais personne, moi. J'étais lycéen. Enfin, j'étais encore au lycée ou en fac, je sais pas. En fac d'anglais. Donc, je me suis dit, comme je connaissais personne dans ce métier, j'étais dans ce bistrot tous les jours, l'écritoire. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'écritoire qui écrit des paroles de chansons. C'est dingue. Et j'ai une chance inouïe, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu oui, moi, je peux écrire. Et c'était Roda.
C'était Rodagil. On en reparlera d'Étienne Rodagil tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure de l'entrée. Qu'est-ce que c'est beau, ça dit donc Adrien Ferrand. Et ça sent bon. C'est vrai que voilà, la cuisine, c'est du visuel, mais c'est aussi de l'odeur et du parfum. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que vous sentez, tiens, Julien Clerc, racontez-nous.
Bah justement, il y a ce basilic là, qui est censé très parfumé. Ça a l'air délicieux.
Ça, c'est bien pour démarrer l'année, ça. Hein.
Ça va changer des gougères, du foie gras, du saumon fumé.
Exactement. Et de la poularde. Et de la poularde farcie. Ça, c'est bon, ça. Effectivement, il y a la gourmandise de ce bouillon de canard. Parce que, comme vous dites, il n'y a pas de morceau de canard. Il n'est pas présent physiquement, si je puis dire, dans le bouillon.
Oui.
Mais on le sent et il donne cette gourmandise et cette matière aussi au bouillon.
On a toute son essence.
Et ce sont ces herbes. Il n'y a pas que du basilic. Là, vous avez mis d'autres herbes.
Il y a de la tagette également. Bien vu. La tagette qu'on aime beaucoup, elle est citronnée et elle va avoir un bon répondant à la bergamote.
C'est une bonne idée d'avoir mis les...
Ah oui, les pistaches.
Ah oui, les pistaches, oui.
Pistaches, c'est génial.
Ah oui, les pistaches donnent du croquant, effectivement. Il y a un petit peu de mâche
et
de matière aussi. Et des poireaux effilés. C'est quelque chose qu'on peut refaire à la maison, ça. Hein,
bien sûr, c'est super simple.
Adrien.
On récupère la carcasse du canard qu'on a fait le dimanche ou pendant la semaine. On fait un bon bouillon et après, c'est un petit peu de pistaches mixées, des pistaches, poireaux, fenouil. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple à trouver ?
Il existe même de bons bouillons qu'on peut trouver dans le commerce qui sont bio, qui sont fabriqués en France. Et on peut les utiliser, des bouillons taille comme ça qui feront une base. Et on met ses poireaux émincés, des pistaches. Effectivement, on peut même pocher une volaille si on veut. Et ça
moi,
fait...
je le fais, mon bouillon.
Hein
voilà. Soit à la volaille, soit au bœuf.
C'est ça. Bouillon maison de Julien Clerc, c'est la classe.
Un peu de légumes et tout, et puis après je mets ça dans des bocaux, ça tient pas longtemps, ça tient la moitié de la semaine.
Ouais, mais c'est bien, mais on va venir chez vous alors bientôt, on va débarquer Julien Clerc.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en train de préparer le déjeuner du dimanche en compagnie de Julien Clerc. On se met en bouche, comme on dit, avec un bon bouillon de canard réalisé par Adrien Ferrand, des pistaches à l'intérieur, du poireau émincé, du basilic thaï et de la tagette, vous nous avez dit Adrien. Redites-nous ce que c'est que la tagette. Tiens.
La tagette, donc, c'est une herbe qui est citronnée, un peu camphrée. Elle a le goût de citronnelle, d'un agrume thaïlandais qui s'appelle le kombawa. Elle a vraiment des notes très aromatiques.
Ça vous plaît visiblement, Julien Clerc.
C'est très, très, très bon.
Et ça fait plaisir parce qu'en plus, vous nous l'avez dit juste avant la pause, vous faites vous-même vos propres bouillons, bœuf et volaille. Pot-au-feu, tiens aussi, vous êtes amateur de pot-au-feu.
Oui, beaucoup. Je trouve que c'est un plat de roi, le pot-au-feu.
Et pas du tout calorique, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une viande pochée, donc c'est assez diététique.
Bah, le pot-au-feu... Et décliné absolument toutes les cultures. Quand vous allez en Argentine, ça s'appelle le puchero. Quand vous allez en Italie, ça s'appelle le bollito. Et selon, évidemment que le couscous est une déclinaison du pot-au-feu aussi. Et selon, évidemment, les bourses, on va dire, et l'endroit, ça peut être évidemment tout à fait différent. Il peut y avoir plusieurs viandes. Par exemple, les Argentins mélangent, le souvenir que j'en avais mangé une fois, ils mélangent, ils mettent de la volaille. Les Italiens aussi mettent du porc, je crois, parce qu'il y a un saucisson
dans
le bollito. Ils mélangent,
exactement.
Ils mélangent les viandes. Mais enfin, c'est un plat qui est décliné dans beaucoup de cultures.
Alors, vous venez nous voir avec un album qui s'appelle Les Jours Heureux. On écoutera à bicyclette tout à l'heure. Je voudrais parler de votre tournée qui est complètement dingue. En 2022, une grande tournée. Vous qui nous écoutez actuellement, je suis sûr que Julien Clerc passe à côté de chez vous. Il vient même de rajouter quelques dates. Là, le 15, 16 et 17 décembre 2022 à l'Olympia. Vous serez le 11 février à Genève, le 6 mars à Strasbourg, le 12 mars au Mans, le 13 mars au Havre, le 26 mars à Pau, le 27 juin à Lyon. Vous aimez la vie de tournée, Julien Clerc?
Beaucoup, beaucoup. J'aime bien tourner longtemps quand je tourne.
Ben, ça se voit. Hein.
Ce que je fais... Ce que je fais aussi, c'est que je passe dans des salles de différentes tailles et j'adapte, on va dire, le tour de chant à la formation qui m'accompagne. Toute la première partie de la tournée, c'est-à-dire en 2022, ça va être le programme avec... donc, on n'est que quatre musiciens, d'ailleurs. Ils font du bruit comme 12, mais ils sont quatre. Et puis après, en 2023, on ira dans des salles plus petites. Alors, on sera moins nombreux sur scène, ce qui me permettra d'adapter le répertoire à la formation qui m'accompagne. Parce que j'ai de la chance, mais les gens, souvent, reviennent plusieurs fois voir le spectacle. Donc, j'essaie, sur 2 ans, de ne pas leur présenter forcément le même programme à chaque fois.
Et vous avez le temps d'aller faire de belles tables en tournée, en province, où c'est compliqué justement pour garder une discipline, parce que vous êtes quelqu'un de très discipliné, Julien Clerc.
Oui, oui, et rarement, mais de temps en temps.
De temps en temps.
Par exemple, il y a une étape quand je suis dans son coin. J'adore m'arrêter d'ailleurs plutôt à l'heure du déjeuner, parce que généralement je ne dîne plus après les spectacles, je mange très léger. Mais à l'heure du déjeuner, par contre, je fais des gros déjeuners. Chez Anne-Sophie Pic, j'adore cette étape.
Ah oui, à Valence, dans la Drôme. Alors, Julien Clerc, je suis venu vous voir, je le disais, au mois de décembre, au Palais des Congrès à Paris. J'ai passé un super moment et je vais vous dire quelque chose. J'ai été bluffé par votre prestation et par votre voix. Votre voix n'a pas bougé. Vous avez toujours la même voix, telle que moi, je vous ai découvert peut-être dans les années 80. Comment vous faites? Vous travaillez cette voix? Il y a une discipline par rapport à ça?
Je travaille beaucoup. Je travaille tout le temps, en fait. Même quand je ne suis pas en période de tournée, je travaille toute l'année à raison, on va dire, de 2 fois par semaine avec mon prof de chant.
Voilà, oui,
parce que c'est étrange d'ailleurs. Bien souvent, on me dit mais Julien Clerc prend encore des cours de chant. Alors, je fais toujours, j'aime bien faire un parallèle avec les sportifs. Je leur dis écoutez, est-ce que vous croyez que Djokovic, quand il n'est pas en tournoi, il bosse pas? Il bosse avec son entraîneur, même plusieurs entraîneurs, à mon avis. Il fait ses gammes, quoi. Les tournois, j'ai envie de dire, c'est comme nous, les concerts, c'est la récompense. Mais entre 2 tournois, ils bossent.
Bon, et vous vient d'où cette exigence, cette discipline? Ça vient de l'enfance?
Non, je pense que j'ai eu peur de perdre ma voix à un moment donné.
Ah oui.
Si vous voulez, on peut mettre ça en 2 périodes. Je chantais complètement instinctivement, moi. J'ouvrais la bouche, puis je chantais. Bon. Et puis après, avec les tournées qui se multipliaient, et puis certaines bêtises que je faisais à l'époque, j'ai compris que la voix commençait à souffrir, si vous voulez. Et on m'a fait comprendre, parce que j'ai été bien entouré, j'ai eu de la chance dans ma vie, que c'était un bien du ciel, cette voix. Même si on ne l'aimait pas, elle ressemblait à aucune autre.
Alors. Cette voix dont on se moquait au début, comme Aznavour.
Oui, hein. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour la garder. Or, ça tombe bien. J'ai un prof de chant qui s'appelle Jérémy Reynolds, qui est un peu, à mon avis, qui est très, 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 très fort. Hein, très fort. Et qui m'avait expliqué, quand on avait commencé à travailler ensemble, il y a à peu près 4 ans, je pense, 4-5 ans, que contrairement à ce qu'on croit, ce que croient les gens, dans les fonctions humaines, il y a beaucoup de choses qui périclitent, on le sait, qui baissent, mais pas les cordes vocales. Donc les cordes vocales, si vous les bossez dans le bon sens, il n'y a pas de raison de les perdre.
Et ce bouillon est parfait pour les entretenir, j'ai l'impression, parce que vous venez de le terminer.
Ah bah oui, j'ai terminé. Bah, vous m'avez dit qu'on venait déjeuner, je
ah bah
me suis
oui.
pas gêné.
Ah bah non, c'est pas une blague, et puis ce n'est que le début, hein, effectivement. Tiens, à quoi va ressembler notre plat du jour, cher Adrien Ferrand, vous, le chef du restaurant Hills à Paris, dans le 10e arrondissement. Je le dis à nos auditeurs, hein, s'ils viennent d'arriver, une cuisine avec des petites influences asiatiques, on peut dire ça, cher Adrien.
Oui, en effet, avec beaucoup d'aromates, beaucoup d'épices, pas forcément asiatiques, mais j'aime beaucoup apporter... de la tessiture vraiment au plat, du punch. Et du coup, là, on va rester en légèreté, bon pour le corps. On va cuisiner une dorade royale de ligne, crue. Elle a juste été passée au sel. Elle est arrivée ce matin de Noirmoutier, de la criée. Et on va la cuisiner avec un légume qui est très iodé, donc le chou rave, un bouillon d'algues.
C'est marrant, vous le trouvez iodé, vous, le chou rave, effectivement.
Le chou rave, quand on le cuit, et même cru, il est iodé, comme le cresson, comme certains...
Il y a de la puissance, quoi, aussi.
Il y a de la puissance, ouais, mais on sent vraiment qu'il y a un goût de, il y a un goût de mer. Quelques herbes, un petit peu de cédra, kiwi et échalote, voilà.
Et ben, du parfum.
Du parfum.
Ça vous va, Julien Clerc ?
Très bien.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Si vous avez raté le début, vous le trouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Julien Clerc est avec nous en cuisine. Avant de passer à table dans la salle à manger, pour être tout à fait précis dans un instant, vous entendez le moulin poivre d'Adrien Ferrand, chef de deux restaurants à Paris, Hills dans le 10e arrondissement et Brigade du Tigre. Un plat tout en fraîcheur, hein, vous nous avez promis.
Exact.
Autour de la dorade de ligne.
C'est ça, exactement.
Vous reprenez la route, Julien Clerc.
Vous dites, pardon, parce que vous, tout à l'heure, vous avez dit... qu'elle était juste salée. Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire qu'on a mis le filet au gros sel pour raffermir un petit peu les chairs.
Comment mettre le filet au gros sel ?
Eh bien, vous mettez du gros sel sur une plaque ou sur une assiette à la maison. Vous posez votre filet dessus. Vous laissez au frigo 20 minutes.
D'accord.
Et ensuite, la partie qui a été salée, elle va être beaucoup plus facile à tailler avec un couteau très aiguisé pour faire des sashimi un peu
ça,
japonais.
Ça, par exemple, vous voyez, c'est très utile. Comme, là, j'ai appris quelque chose. Et dont je vais me servir.
Oui, parce que le sel pompe l'eau, effectivement, ça raffermit les chairs et on a des poissons avec plus de texture et de mâche. Pour faire un ceviche, par exemple, c'est une bonne technique, ça aussi, Adrien.
Oui, exact, ouais. Hein ?
Ou un tartare, par exemple, de poisson. On aura un poisson qui se tiendra mieux, qui sera moins, entre guillemets, flotteux. Vous reprenez la route, Julien Clerc, avec votre tournée Les Jours Heureux. Dans quel état vous êtes avant de retrouver le public, mais précisément quand le rideau va s'ouvrir? Parce qu'on va parler du rideau qui a un rôle très important dans votre spectacle.
Ben, vous savez, le train qui est toujours présent, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier sans avoir une forme d'inquiétude et de trac. Après, le trac se gère au fur et à mesure des années, mais il est toujours tapis là dans un coin.
C'est ça, hein.
Et à la moindre erreur, si vous voulez, alors là, il arrive.
Il surgit.
Il surgit, il bondit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut domestiquer, mais dont il faut se servir. Je crois qu'il faut avoir cette espèce d'inquiétude comme ça pour donner le meilleur de soi-même, je pense.
Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe derrière le rideau. Hein. Derrière le rideau, c'est un moment fort de votre spectacle. Il y a un rideau rouge sur scène qui se ferme. Vous êtes devant ce rideau rouge et vous nous racontez tout ce qui se passe derrière le rideau et tous ceux qui sont derrière le rideau, nos chers disparus à qui vous rendez hommage dans cet album Les Jours Heureux. Donc il y a Barbara, il y a Trenet, il y a Brel, il y a Beko. C'est un vrai concentré d'émotions, ça. Hein. Vous faites pleurer, hein, quand vous reprenez, entre autres. Enfin, j'ai remarqué, moi, quand je suis venu voir, chacun pleure à des chansons différentes. Non, mais c'est vrai. Moi, vous m'avez cueilli avec Que c'est triste Venise d'Aznavour. C'est un bel hommage, ça, quand même.
Oui, c'est. On a une chance inouïe, notre génération, d'avoir été précédé par cette génération-là. Ce sont ces gens qui ont poussé, on va dire, l'exception française à son meilleur. Et c'est cette génération-là d'artistes qui, pour moi, est la génération dorée de la chanson française, qui a inspiré les gens de ma génération. Quelle chance d'avoir eu ces gens-là avant nous. Ce sont ces gens, des artistes exceptionnels, tous des artistes de scène, il faut le dire. C'est-à-dire que tout leur art, il fallait vraiment les voir en chair et en os.
Des artistes de music hall, comme
voilà,
on disait.
Des artistes de music hall, qui avaient hérité du meilleur du music hall français, si vous voulez, et qui, en même temps, faisaient une chanson où les paroles... Il n'y a pas une mauvaise chanson, évidemment, dans ce que je chante là. Il y a un alliage, cette espèce de grâce de la chanson française qui peut y avoir entre la musique et les paroles. Et une chanson complètement française, pour le coup.
Et puis, vous racontez plein de souvenirs, d'anecdotes personnelles que vous avez vécues avec chacun, notamment avec Barbara, que vous racontez que Barbara vous a suivi en tournée parce qu'elle avait un petit coup de foudre pour votre secrétaire.
Oui. Ça a été une semaine géniale, vraiment, vraiment gay, parce que Barbara, elle était très drôle. Hein. Et on voyageait là, en voiture toute la journée. Elle montait devant, évidemment. Donc, lui, il conduisait. Moi, je montais derrière avec Momo Vallet, qui me suivait en tournée à l'époque. Mon copain Maurice Vallet, qui écrivait aussi des paroles. On s'arrêtait pour saucissonner sur le bord de la route. C'était vraiment drôle, quoi. Et elle était extrêmement spirituelle et très drôle. Franchement, ça a été une semaine de rêve.
Barbara, qu'on retrouve dans votre album Les Jours Heureux. Alors, je vous propose de passer à la salle à manger maintenant, cher Julien Clerc. On va retrouver Emmanuel Rubin. Prenons nos micros, nos verres. Adrien, on vous dit à tout à l'heure. Hein. On vous laisse finir ce beau plat du jour autour de cette belle dorade. Et nous voilà à table dans la salle à manger. J'aime bien ce mot de salle à manger qui est un petit peu désuet. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Clerc ?
Ah ben, bien sûr, il doit y avoir un coin. Salle à manger, c'est un très bon terme. Hein, c'est un très bon terme,
d'accord.
Ça doit continuer d'exister, même si dans les maisons plus récentes, on l'organise, des fois c'est un peu la même pièce que la cuisine, mais quand même, le coin à manger doit être différent, je trouve, parce que c'est là qu'on reçoit ses amis, c'est là qu'il y a les moments qui comptent dans la vie. Il y a différentes façons de dire je t'aime aux gens qu'on aime, mais cuisiner pour eux est une façon de leur dire je t'aime.
Et comment ? Et c'est important pour vous, j'imagine, la table avec vos enfants, de se retrouver comme ça à table et d'échanger, de se poser et...
Oui, bien sûr. Et puis on est jugé. Enfin, je veux dire, si c'est bon, ils sont contents, ils vous le disent. Si c'est moins bon, soit ils sont très polis, ils vous le disent pas, mais ils vous font comprendre.
C'est le point commun entre les artistes et les cuisiniers. Il y a ce jugement un petit peu comme ça aussi.
Les cuisiniers sont des artistes. Souvent, les cuisiniers et les grands chefs, ils ont une susceptibilité d'artiste.
Absolument.
Encore plus.
Vous confirmez, Adrien ? Une sensibilité, une susceptibilité d'artiste.
Ah oui, la oui. Susceptibilité surtout.
Aussi, ouais, voilà. Bienvenue au club alors.
Alors, je confirme.
Hein, vous aussi, Emmanuel Rubin.
Je peux dire qu'ils sont susceptibles.
Alors, vous allez nous parler des aliments qui rendent heureux parce qu'ils existent. Petit écho à l'album de Julien Clerc, les jours heureux. C'est pas une légende. Il y a des aliments effectivement qui font du bien. Qui contribue à notre morale. Quels sont les champions du genre ? Alors, racontez-nous.
Alors, on dit parfois, vous savez, que le plaisir naît de la contrariété. Alors, je vais d'abord évoquer, parmi les champions du genre, des produits que certains ont du mal à fréquenter. C'est dommage, moi, je les aime beaucoup. Mais enfin, parmi les grands champions, ce sont les abats.
Ah, oh là, oui. Ça, c'est clivant, comme
oui, exactement. Mais les foies de veau, les riz, les tripes, elles possèdent en elles ce qu'on appelle le sélénium. Alors, qu'est-ce que le sélénium ? Eh bien, le sélénium, c'est un oligo-élément antioxydant, et lui, il a un mérite, mais vraiment, hein, c'est de lutter contre tous les troubles dépressifs et l'irritabilité. Autant vous dire que plus vous mangez d'abats, plus vous êtes un personnage très cool, quoi.
Vous en tripez pour les abats ?
J'aime beaucoup. Oui. En plus, ce sont les genres de plats, comme on ne les fait pas chez soi, que je prends souvent au restaurant. Riz de veau, je me hasarderai pas à cuisiner un riz de veau.
Il faut l'éplucher, voilà, y a un travail.
Même un simple foie de veau, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué.
À la cuisson, très souvent, on a du mal, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que finalement, les gens ont du mal avec les abats. C'est comme ils sont en vérité très délicats, très fragiles, très difficiles à cuisiner et à préparer.
Donc c'est typique les plats à prendre au restaurant. En fait.
Exactement.
Donc les abats, il y a du sélénium, il y a du zinc, il y a des minéraux, il y a des bonnes choses. D'autres nourritures qui nous font du bien, mais plus rassembleuses, on va dire.
Ouais, exactement. Alors on va tourner autour de trois hormones. La première, c'est la sérotonine. On l'appelle aussi l'hormone du bonheur. La mélatonine qui régule l'horloge interne, on l'appelle aussi l'hormone du sommeil, mais c'est vrai que c'est elle qui va régler nos cycles et nos jours. Et enfin l'endorphine, elle, c'est l'hormone dite du plaisir. Alors pour le bonheur, on va choisir les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, les noisettes. Elles vont aider l'organisme justement à
les
produire...
Les pistaches aussi, qu'il y avait dans le bouillon tout à l'heure.
Exactement, elles aident à produire cette sérotonine. Pour l'horloge interne, du côté de la mélatonine, là, il faut plutôt miser sur les poissons dits gras. Alors, poissons gras, thon,
macro,
saumon, bravo, ça suit. Alors là, c'est les têtes d'affiche, non seulement parce qu'ils sont riches en sélénium, mais aussi en oméga 3, et tout cela produit cette fameuse mélatonine. Et enfin, pour le plaisir, alors là, le plus connu, c'est le chocolat noir. Mais attention, ça ne veut rien dire le chocolat s'il n'est pas fortement dosé en cacao. Donc, il faut monter à 60-70% parce que le cacao, lui, va justement libérer l'endorphine. Et là, c'est pour ça qu'on a dit que parfois, il était aphrodisiaque.
Eh ben, on retient. J'aime bien votre côté un petit peu Elsie, comme ça, on vous découvre. Oui. On vous verrait presque dans la table comment avec ces petits conseils.
Ouais, c'est gentil pour elle. Mais comment vous dire, c'est le début d'année, c'est oui. Les bonnes résolutions, eh ben, on ne tient jamais. D'habitude, je tends la carte du restaurant. Aujourd'hui, je vous ai pris votre carte vitale. Eh ben, vous remerciez.
Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel Rubin.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Merci d'écouter la table du dimanche. Bon dimanche si vous venez d'arriver. Julien Clerc est avec nous jusqu'à midi et demi pour démarrer cette année 2022. Et je peux vous dire qu'on se réjouit avec Adrien Ferrand en cuisine avec un plat du jour autour de la dorade et une belle mise en place. On s'apprête à déguster un beau poisson que vous allez accommoder. Rappelez-nous tout ce que vous allez mettre autour, Adrien.
On va le cuisiner avec du chou rave, du cédra, une eau d'algues, quelques agrumes, quelques herbes, tout en fraîcheur.
Gourmandise et légèreté. Ça vous plaît, Julien Clerc ?
Oui, tout à fait.
Comme programme ? Comme menu ?
Oui, tout à fait.
On a appris que vous faisiez vous-même vos bouillons de bœuf, vos bouillons de volaille.
Aussi.
Quels sont les plats rassembleurs que vous aimez faire pour votre tribu aussi ?
Bon, alors ça, tout ce qui est, tous ces plats-là. Là. Et puis, il y a un plat que j'affectionne et que je réussis pas mal. Là, par contre, on est dans le super riche. C'est un plat riche, oui. c'est... Alors, ça vient, c'est une histoire qui est sympa. À l'époque où je vivais avec Miu Miu, elle avait tourné un film avec Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi, qui est un grand acteur italien de la génération...
Les nouveaux monstres.
Les nouveaux monstres.
Hein, la cage aux folles, effectivement.
Bien sûr.
La grande bouffe.
Et la grande bouffe. À la suite de la grande bouffe, Ugo Tognazzi, qui est un très bon cuisinier, j'ai eu la chance de manger chez lui, il faisait des plats, des pâtes pour des tablés énormes. Et c'était vraiment délicieux, et des pâtes différentes pour le même repas. Il avait écrit un livre qui s'appelle La Buffone, qui est un jeu de mots, si vous voulez, entre la bouffe et le bouffon. Donc, et dans La Buffone, il raconte son expérience de la grande bouffe, du tournage, mais aussi, il met quelques recettes qui lui étaient propres. Et donc, moi, je fais les pâtes, j'ai ce livre, qui est un livre merveilleux, et je fais les pâtes de Ugo Tognazzi, qui sont les linguines au saumon.
Il a fait plusieurs livres de cuisine, Ugo Tognazzi, dont un qui est best-seller, effectivement, de recettes italiennes dans la belle botte italienne.
Et c'était merveilleux de manger chez lui. Et à la fin du film, il va donc offert son livre à Miu Miu, qui me l'a gentiment donné, et avec une dédicace merveilleuse qui disait à peu près... En espérant que ce livre fera oublier à Miu Miu le film, parce que je crois que le film, il n'en était pas très fier, mais pas l'ami.
Ah, c'est joli ça, belle dédicace. Ouais. Eh bien, on va continuer à parler de livres, mais un tout autre genre. Je vous propose d'accueillir maintenant Lilia Hassen, journaliste et romancière, qui vient nous retrouver ce dimanche et ce midi à la table du dimanche. Bonjour,
bonjour.
Lilia Hassen.
Bonjour.
Julien Clerc, Lilia, Emmanuel
bonjour,
Rubin.
Enchanté.
Merci d'être là.
Merci de vous recevoir.
On vous connaît parce qu'on vous voit tous les soirs à la télévision sur TMC dans Quotidien. Mais vous êtes aussi romancière. Et pas n'importe quelle romancière, parce que vous venez nous voir avec un deuxième roman qui s'appelle Soleil amer. Vous avez un vrai style. Vous nous racontez une très belle histoire d'intégration, de déracinement, avec une belle ode à l'Algérie. Une famille comme ça qui vient d'Algérie. Le père arrive en France pour travailler. Lui seul d'abord, sa femme va le rejoindre avec les trois filles. Et alors là, on se rend compte que ce n'est pas facile de s'intégrer. Et surtout, ça ne va pas être facile d'accueillir un quatrième enfant dans cette famille.
Enfin, c'est tout à fait ça. Oui, on ne peut pas tout dire. Je vais éviter de raconter, parce qu'il y a un secret.
Il y a des rebondissements.
Il y a un secret très vite, un secret de famille qui arrive très, très vite. Et effectivement, cet homme qui arrive d'abord en France pour travailler dans une usine automobile, sa femme le rejoint quelques années plus tard, mais entre-temps, il a travaillé dans un foyer pour travailleurs immigrés, donc des conditions de vie très difficiles, où ils n'étaient pas avec leur femme, ils n'étaient pas avec leur enfant. Et donc, c'est des hommes qui ont commencé peu à peu soit à sombrer dans l'alcool. En tout cas, il a commencé à avoir des difficultés. Et c'est comme ça que les employeurs ont très vite ce qu'on appelle le regroupement familial. En fait, on a fait venir les femmes et les enfants aussi pour encadrer les maris.
Ça parle d'intégration, ça parle de déracinement, ça parle d'identité. C'est des thèmes qui vous sont chers aussi, Julien Clerc, j'imagine.
Bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, bon, moi, j'ai vécu ça un peu de loin, mais bon, mon grand-père était antillais. On parle beaucoup des Antilles en ce moment. Hein, il était guadeloupéen. Il était venu aussi en France, je crois, après la guerre de 14 pour être ouvrier dans l'aviation. Il était rampant, comme on dit, c'est-à-dire ouvrier au sol, dans l'aviation au sol. Et puis, il était resté, en fait, en France. Il était, voilà, il était communiste, ouvrier. Et donc, là aussi, c'était... Pour les Antillais aussi, c'est aussi une question de s'insérer et de, voilà, de s'intégrer. Même si c'est la France là-bas, quand on arrive de son pays comme ça, où tout est si différent, il faut s'intégrer.
Bah c'est très bien raconté, hein, justement, avec Saïd, qui est le personnage, un des personnages principaux, et qui est comme ça un petit peu en train de faire le grand écart, toujours entre ses racines algériennes et ce qu'il aime dans notre pays, en France aussi.
Oui, exactement. C'est un livre sur le déracinement, mais effectivement, tous les déracinements, en fait, on se rend compte que l'histoire de l'immigration portugaise, espagnole, n'est pas forcément différente. Il se trouve que là, c'est une immigration récente et qui s'est très vite confrontée à la crise du chômage dans les années 70. Et c'est ça la grande différence, c'est que c'est des gens qui sont arrivés à un moment pour construire avec leurs enfants, et puis dans les années 70, plus de travail. Plus de travail pour leurs enfants qui sont nés dans les années 60, qui ont tous grandi dans les années 70, les années 80, et arrivés à 18-19 ans dans les années 80, il n'y a pas de travail pour eux. Et c'est vrai que ça change tout, puisque c'est le début de toutes les difficultés aussi qu'on connaît aujourd'hui.
C'est un voyage dans le temps de 1959 à 1997, votre roman. C'est une façon de parler de votre histoire familiale, Lilia, ça ?
Ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'avais vraiment pensé écrire une histoire, simplement une histoire romanesque. Effectivement, l'histoire de ses frères, de cette famille, de cette fratrie qui grandit, leurs sœurs, ces personnages féminins aussi qu'on suit, parce que c'est vrai qu'on voit des parcours de femmes très différentes. Cette histoire de la mixité ethnique dans les cités HLM, les premières cités HLM, à quel point c'était une utopie, à quel point c'était assez merveilleux de vivre ensemble. Et comment ces choses-là ont changé. Et effectivement, à travers ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de liens avec aussi mon histoire familiale, puisque je suis de la troisième génération. Mes parents sont nés en France, je suis née en France, mais mes grands-pères sont venus d'Algérie. Et je ne pensais pas être aussi proche de tout ça. Je ne pensais pas qu'on avait vraiment une mémoire cellulaire aussi des traumatismes, des choses qui se transmettent, qu'on n'a pas forcément connues, mais qu'on garde.
C'est joli, ça, la mémoire cellulaire, la mémoire de nos anciens, de nos origines, de nos ancêtres. Ça vous parle, ça aussi, Julien Clerc,
oui,
j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Oui,
ben, je vous le
j'ai
donne.
Même, moi, longuement fantasmé là-dessus au début, parce que, comme j'avais ces deux familles, le côté antillais, ça n'était que donc, le côté de mon grand-père maternel. Et évidemment, je quittais... j'avais été confié à la garde de mon père, ce qui est rarissime.
Très,
donc,
très rare,
je voyais ma mère que pendant les week-ends, et donc mon grand-père. Et j'avais vraiment deux vies, une double vie. Et le côté antillais sur lequel je fantasmais complètement, puisque je racontais à mes camarades que j'étais né sur un lit de palme, enfin des conneries, puisque je ne connaissais pas les Antilles. Donc évidemment, je rêvais là-dessus. Je voyais des cousins qui débarquaient de temps en temps, qui amenaient des produits qui sentaient bon, qui parlaient créole avec mon grand-père et tout ça. Mais c'était une espèce de double vie. Et jusqu'avant que l'âge de 21 ans, quand Salut les copains m'a payé le voyage, car à l'époque, évidemment, il y avait de l'argent dans les journaux et il m'avait payé le voyage aux Antilles pour retourner vers mes racines, si vous voulez. Et là, j'ai été confronté à la réalité qui n'était pas la réalité que j'avais rêvée. Voilà, pour moi, les Antilles, c'était tout à fait exotique. Après, j'ai compris que c'était une autre histoire.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Quelques pages de Maupassant, si vous les avez jamais lues, sur l'Algérie, qui sont évidemment tout à fait écrites en 1880, avec un point de vue tout à fait colonialiste, évidemment. Mais il y a une de ces nouvelles qui est absolument merveilleuse, qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte, mais c'est, comme toujours, Maupassant, très bien vu sur l'âme humaine, qui s'appelle Alouma.
Ah bah, je ne l'ai pas lu. Très bien.
Un conseil lecture à la table du dimanche. Merci Julien Clerc. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et merci d'être des nôtres. Si vous êtes là depuis 11h, la table du dimanche est dressée autour de Julien Clerc. Les jours heureux, c'est son dernier album et c'est le titre aussi de cette belle tournée partout en France. Une centaine de dates. Et Lilia Hassen nous a rejoint. On vous retrouve chaque soir dans Quotidien sur TMC. Mais c'est l'écrivaine que nous recevons. On dit écrivain ou l'écrivaine ? Alors tiens, parlons des genres. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous aimez qu'on dise quoi, vous ?
Peu importe. Moi, les deux me vont. Écrivain, j'aime bien parce que écrivaine, il y a le mot veine qui me dérange. Enfin, on sent plus, il y a le mot vin aussi dans écrivain.
Alors, mais, oui, mais c'est moins prononcé, vous avez raison.
Mais oui, veine, je le sens plus. Peut-être par manque d'habitude aussi. Les choses vont peut-être évoluer avec le temps, à force de le dire. Mais...
Est-ce qu'on peut vous appeler mademoiselle ?
Ah oui, il n'y a aucun problème.
Parce que c'est un de vos jolis titres, Mademoiselle, dans votre album Terrien. Non, je dis ça parce que le jour, j'ai dit Mademoiselle à une jeune fille de votre âge et je me suis fait engueuler. On m'a dit, on ne dit plus Mademoiselle aujourd'hui.
Oh,
on dit
quoi, moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes plus graves.
Hein, on est d'accord qu'il y a d'autres problèmes plus graves. Hein, et notamment, tiens, celui de savoir si notre plat du jour est à température. Ça, c'est un problème qui nous concerne.
Mademoiselle, il est à température.
Adrien Ferrand, rappelez-nous ce beau plat du jour que les auditeurs pourront refaire en quelques étapes.
Tiens, écoutez, vous allez pouvoir le déguster très rapidement. On est toujours sur de la dorade royale et on va la déguster avec chou rave, des algues, des agrumes, tout en légèreté pour se faire du bien après les fêtes.
Et ben voilà, on a
de
eu
ligne,
un bon bouillon.
Et de ligne.
Et de ligne, exactement. On aurait pu prendre du bar, mais ce n'est pas la saison du bar. Il est en période de reproduction, donc on lui fout la paix, on le laisse tranquille, le bar. Soleil amer, votre livre parle de déracinement et d'intégration, Lilia. C'est l'histoire d'un couple, je le disais, originaire d'Algérie. Ils ont déjà 3 enfants, un 4e arrive et faute de moyens, ils décident de le confier un couple de la famille. On peut dire que ça démarre comme une tragédie, comme cette histoire. Je ne peux pas tout raconter parce qu'il y a un rebondissement qui arrive très vite dès les premières pages.
Oui, il y a une histoire de don d'enfance ce qui peut choquer aujourd'hui, mais qui n'était pas si choquant à l'époque.
Ça se faisait, c'est ce que vous dites dans le roman.
Oui, ça se faisait, surtout en Algérie, parce que l'enfant qu'on donnait, souvent on le donnait à sa sœur ou à sa cousine qui ne pouvait pas en avoir. Il n'y avait pas de contraception, donc les femmes avaient beaucoup d'enfants. Et donc
c'est
donner
assez
un
africain
enfant,
en plus.
Voilà,
ça.
Oui, c'est
on
ça.
Retrouve ça aussi en Afrique noire.
Exactement.
Les oncles, les tantes qui. Et
sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, en France,
en France ça se faisait aussi
beaucoup. Hein.
Oui, exactement.
Quoi, voyez, les
exactement.
Cultures, elles commencent toutes un peu de la même manière.
Et là, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'ils veulent donner leur enfant, leur nouveau-né, à cette femme française, Ève, qui ne peut pas avoir d'enfant et qui est la belle-sœur de Naja. Et c'est vrai qu'on n'est pas en Algérie, on est en France, et il va y avoir plein de rebondissements et notamment effectivement une surprise, mais je ne peux pas en parler.
Mais non, on ne peut pas en parler, c'est ça. C'est frustrant parce que il n'y a pas qu'une surprise. Il y en a une autre qui arrive à la fin aussi avec d'autres enfants comme ça qui peuvent apparaître. Ça devrait vous plaire, Julien Clerc. C'est une époque, on parle même de Guy Lux.
Je parle de
Sheila. Il y a une Sylvie qui s'appelle Sheila, effectivement, dans ce roman. Il y a des questions de cuisine un petit peu aussi, un peu plus gay, mais on retrouve quelques accents de la cuisine. Ah,
oui.
Il y a la chorba que vous évoquez. Alors, il y a une scène qui est marrante, effectivement, où les femmes imaginent comment elles pourraient se passer de leur mari et même comment elles pourraient vraiment les éliminer définitivement parce qu'elles en ont un petit peu marre de leur mari qui leur font subir pas mal de choses. Il y en a une qui voudrait l'éliminer avec une chouchouka avec des œufs périmés. Voilà, qui est une façon pas commune.
Oui, je pense que j'aime bien manger, ça se sent, ça se sent dans le livre.
Et justement, c'est l'heure du plat du jour qui va arriver à cette table. Juste avant, je voudrais qu'on parle, Julien Clerc, de vos parents. Vous aviez, à propos de ce que vient de dire Lilia, vous aviez déclaré que votre père exerçait une emprise sur votre mère, une emprise culturelle, vous disiez. J'ai lu ça dans une interview.
Non, c'était encore assez rare à l'époque. Ça, d'ailleurs, à mon sens, encore assez aujourd'hui. C'est mon père a épousé la fille de la femme de ménage de son propre père, si vous voulez. Donc, c'était un mariage intersocial, quand même. Il y avait d'un côté une jeune fille très belle, je pense, très jeune, fille d'ouvrier, et de l'autre côté, quand même, un fils de moyenne bourgeoisie, comme ça, et lui, grand intellectuel, qui avait fait des études, il était normalien. Donc, si vous voulez, et ça a joué, même après, au moment du divorce. C'est-à-dire que, d'un côté, il y en a un qui a préparé un dossier épais comme ça, et qui s'est très bien entouré au niveau des avocats, et de l'autre côté, une famille beaucoup plus démunie socialement, pour défendre ses intérêts, doublé d'une très jeune femme qui ne voyait peut-être pas... Après, vous avez des femmes qui, même très jeunes, même pas averties, vont se battre jusqu'à la mort pour garder leur fils. Je pense que ma mère s'est dit, à l'âge de 21 ans, puisqu'elle a divorcé à 21 ans, elle s'est dit, oh, ma foi, il va être mieux élevé par son père que par moi. C'est ça. Et elle a lâché, si vous voulez. Donc, j'ai été confié à ce moment-là, par les juges, à mon père, ce qui était rarissime à l'époque. On a été des espèces de pionniers, parce que à l'époque, quand même, on confiait les enfants à la mère. Ben donc, oui, cette espèce de famille pionnière, comme ça.
Mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans votre roman, hein, avec ce couple qui va élever un enfant d'un autre couple. C'est l'heure du plat du jour. Adrien Ferrand, le chef du restaurant Hills à Paris, dans le 2e arrondissement, il vient aussi d'ouvrir, il n'y a pas longtemps, Brigade du Tigre, dans le 10e également. Alors là, voilà, ça, c'est tout ce qu'on aime, parce que c'est quelque chose qui nous permet de rentrer tout en légèreté dans l'année 2022. Bah, tiens, décrivez ce plat, Lilia. Vous avez l'air de...
Vous êtes un peu critique gastronomique.
Je vais goûter, parce que moi, je n'ai pas suivi le début. Alors
dorade.
Donc, c'est de la dorade.
Ouais, qui a été raffermie avec du sel par Adrien. Ah, il y a un petit bouillon encore.
Oui, il y a un petit bouillon qu'on a fait super simplement avec des algues qu'on peut trouver chez un poissonnier ou alors dans certaines épiceries, certains magasins. Et on les a juste chauffés dans de l'eau frémissante.
Ah, il a presque une texture de sirop. Bon.
Exactement.
Comment vous faites ça
pour un peu? C'est les algues qui vont faire le travail.
Oui, comme la guerre à guerre, c'est un pouvoir gélifiant, effectivement.
Et du coup, là, on va encore plus croquer dans la mer.
J'adore les chefs, parce que vous leur dites, mais quand vous le faites, bah, c'est les algues, c'est les algues.
C'est toujours le produit.
C'est toujours
l'évidence.
Oui, quand ils font des livres, ils disent, alors vous réservez. Alors, si ce n'est pas des termes que vous connaissez,
c'est vrai qu'il y a un vocabulaire.
C'est normal que les
chefs
n'ouvrent pas vraiment tous leurs secrets.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ils ne veulent pas tout dire, mais il nous en a dit pas mal quand même, Adrien Ferrand. Donc, si on veut refaire la même chose à la maison, un poisson cru taillé assez épais, hein, c'est ce que vous nous proposez.
Oui, tout de même, un demi-centimètre, pour avoir un peu de mâche, pour que ça reste un peu en bouche.
Du chou-rave émincé également.
Exact.
On est sur la finesse, hein, il faut avoir la mandoline pour tailler tout en transparence. Là,
même le couteau poivre.
Qui coupe un petit peu, ouais.
Parfaitement dosé.
Et on fait quelque chose d'assez rigolo, on met du kiwi. C'est assez à la mode depuis une dizaine d'années. On utilise pas mal le kiwi avec les huîtres, avec les choses iodées. Et là, il s'accorde vachement bien avec le poisson cru, le chou-rave, etc.
C'est délicieux, c'est délicieux.
Très, très bon.
La petite technique pour utiliser des fruits dans des plats, dans des entrées salées, pour moi, c'est toujours de les couper avec un oignon, une échalote, un petit peu d'ail. Comme ça, on revient dans le droit chemin et grâce à son échalote, à l'oignon, on sait que c'est salé. Parce que l'échalote et l'oignon, on ne va pas l'utiliser en sucré. Et ça nous fait nous rappeler que c'est un plat salé.
Je sens que ça vous plaît, Julien Clerc.
Moi, j'adore. Je vois, vous ne mangez pas beaucoup.
Mais je parle, moi, c'est ça le problème. Comme je ne peux pas non plus parler tout le temps la bouche pleine, quel genre de mangeur êtes-vous, tiens, justement, Julien Clerc, ça m'intéresse.
Ah, je suis gourmand, quand même. Je suis gourmand, donc j'ai supprimé, moi, des choses de mon alimentation, parce que, par exemple, je mange très peu de sucre. Sinon, plus du tout.
On mange trop de sucre. Vous savez qu'un enfant aujourd'hui de 7 ans a mangé autant de sucre que son grand-père dans toute une vie, si on ne fait pas attention au sucre qu'on mange. Donc, c'est complètement
délirant. C'est un vieux.
Ah, c'est un vieux.
Il y en a partout, surtout.
Il y a du sucre partout.
C'est ça la différence.
Donc, oublions les plats préparés et cuisinons à la maison. Rien de tel que le fait maison pour contrôler ce que nous faisons. Julien Clerc, je voudrais qu'on parle de votre rapport à la nourriture, parce que je vais vous dire quelque chose, mais ça doit vous parler. J'ai souvent entendu que vous faisiez très attention à votre nourriture, à tel point que vous pesiez vos aliments.
Mais ça, c'est fini.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, c'est une époque où j'avais voulu perdre du poids. Et donc, j'avais été voir un diététicien. C'est moi qui lui avais réclamé cette histoire de grammage, non pas pour manger moins, mais je lui avais dit, dites-moi ce que je peux manger, parce qu'au gramme près, je vous jure que je vais manger ce que vous me dites jusqu'au dernier gramme. Hein. Donc, j'avais exigé, parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire ça normalement. Et donc, il avait eu la gentillesse de me le faire. Et donc, c'est comme ça que je sais ce que représente 100 grammes de riz, 100 grammes de pain, bien que je ne mange plus beaucoup de pain. Mais, et là, je l'ai suivi pendant plusieurs mois. Les résultats avaient été spectaculaires. Mais ça m'a servi, évidemment, qu'aujourd'hui, je ne pèse plus les aliments. Mais d'avoir fait ça à une époque de ma vie, ça me permet quand même de voir pour les proportions.
Voilà, c'est ça. Oui,
voilà. Et de se faire une discipline. Et maintenant, je m'en sers toujours, mais évidemment, de façon moins rigoureuse qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je voulais véritablement perdre 10 kilos. Donc, tout en continuant d'être gourmand, ce qui était difficile.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Nous voilà toujours à table aux côtés de Julien Clerc. Il est venu avec son album Les Jours Heureux, avec lequel il part en tournée toute l'année. Nous sommes ensemble depuis 11h. Alors, si vous avez raté le début, vous le retrouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Nous sommes autour d'un beau plat de poisson d'Adrien Ferrand, le chef des restaurants Hills et Brigade du Tigre à Paris. Et puis, Lilia Hassen nous a rejoint avec son deuxième roman, Soleil amer. Je dis rien, mais Julien Clerc est toujours à la recherche de jeunes auteurs, de nouveaux textes. Ça vous a traversé l'esprit d'écrire un jour des chansons ?
Ce qui est drôle, c'est qu'on vient de me proposer d'écrire de la poésie, parce qu'effectivement, le texte, Julien le lira, mais c'est très poétique. Et je pense qu'effectivement, j'ai une fibre poétique qui se prête assez bien à la musique, mais j'ai jamais essayé, non.
C'est vraiment une forme d'écriture différente. Ouais. C'est une tournure d'esprit différente. Souvent, de grands romanciers s'y sont essayés sans vraiment réussir. Ils sont très, très rares.
Non, parce qu'il ne faut pas être trop littéraire, en fait.
C'est vrai qu'une chanson, c'est ce que disait Aznavour aussi, c'est une scène, c'est une image qu'il faut qu'on voit tout de suite. C'est ce qui se passe aussi quand vous reprenez tous ces grands artistes et vos chansons aussi.
Vous avez des gens qui écrivent des chansons qui arrivent à traiter peut-être pas tout le problème, une partie du problème en 20 lignes, d'un problème qui va être traité en 200 pages par un romancier. Donc c'est vraiment une tournure d'esprit différente.
Et vous parliez tout à l'heure des artistes de l'âge d'or. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait ni clip, ni Scopitone. Et à chaque fois qu'on écoute, et on parlait de la bicyclette, c'est des petits films, des petites scénettes. Exact. Et j'ai le sentiment, c'est un peu vachard, mais plus on a collé une image sur la chanson, moins la chanson... elle évoque finalement ces scénettes. Elles sont belles aujourd'hui, les chansons, mais elles ont rarement cette côté d'une petite nouvelle, d'un petit conte, d'un petit film qui avait cette force et cette puissance.
Chacun se faisait son film dans sa tête.
Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que des fois, on y colle des images et tu te dis, quand tu écoutes vraiment la chanson, il y a une belle rythmique, il y a parfois des assonances, mais elle ne raconte pas grand-chose. Enfin bon, je suis un peu vachard.
Non, mais c'est pas vachard. Alors tiens, justement, Emmanuel Rubin, vous avez pris la parole, et bien gardez-la. Vous hésitez entre cuisine et histoire parfois dans cette émission. Et bien aujourd'hui, vous avez trouvé le moyen de réconcilier les deux, la cuisine et la grande histoire.
Et la grande, oui, parce que souvent, moi, j'aime bien raconter tous ces livres qui racontent la petite histoire de la gastronomie. Mais là, c'est vraiment un ouvrage qui, par le biais de la gastronomie, va raconter la grande histoire. Alors, je suis un tout petit peu en retard, mais il y a 30 ans, c'était le 25 décembre 1991, je vous rappelle... Le bloc de l'Est et la Russie soviétique tombaient. Eh bien, il y a un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines qui s'appelle « Les plats chauds de la guerre froide » et je crois que c'est l'un des livres les plus intelligents que j'ai vus autour de la gastronomie. Il est signé de Gila Pevsner. Alors, Gila Pevsner, elle est née, elle, dans le Moscou. Elle a même grandi dans le Moscou de Brejnev. Autant dire que le bloc de l'Est, elle connaît. Puis ensuite, elle a quitté. Elle est devenue journaliste française. Et il y a quelques années, elle se trouve dans un monastère et elle tombe sur un livre russe. Ce livre s'appelle... Le livre de la nourriture bonne et saine. Et lorsqu'elle voit ce bouquin, elle se dit « Mais je le connais, ce bouquin. Je le connais, il m'a accompagné. » Et effectivement, il était dans la cuisine de sa mère lorsqu'elle vivait à Moscou. Et ça va être le début du livre qu'elle a écrit.
Il y a un livre dans le livre, en
fait. Exactement. Alors pourquoi ? Parce que ce livre de la nourriture bonne et saine, c'est pas n'importe quoi. C'est un ouvrage qui avait été commandé par Staline directement pour édifier les masses patriotes et les estomacs patriotes. Il avait compris que la gastronomie était aussi une manière de propagande. Et cet ouvrage, il est fou parce que c'est vraiment une sorte de Ginette Mathieu stalinien. Quoi.
Mais c'est dingue, c'est étrange quand on y pense.
8 millions d'exemplaires vendus à l'époque.
Mais comment c'est possible d'acheter un ouvrage qui vantait les mérites de la cuisine soviétique quand on sait qu'il n'y avait rien, il y avait pénurie de tout, en fait.
Et justement, c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre que le peuple soviétique achetait surtout dans les grandes villes comme Moscou. Il achetait le livre parce que valait mieux se faire bien avoir. Deuxièmement, les soviétiques, à l'époque, lisaient le livre comme un part de rêve, un fantasme. Ils voyaient des bécasses, des plats riches, une espèce d'idéal comme ça gastronomique, alors qu'eux-mêmes étaient dans la restriction et le dénuement le plus total. Et puis surtout, comme souvent lorsque l'on vit sous les dictatures, sous l'autorité, sous le joug, eh bien, il y a la force de l'humour, du second degré, qui prend le pli. Et cet ouvrage est devenu une espèce d'ouvrage où les soviétiques eux-mêmes s'en moquaient. Et alors, il y a beaucoup de passages dans le bouquin de Gulia Pevsner qui racontent toutes les blagues que les soviétiques se faisaient à propos de ce livre. Il y en a un qui est assez drôle. Alors moi, je ne suis pas très bon comédien, mais bon. Il y a un soviétique qui disait « On nous a dit à l'école que nous vivons sous le socialisme développé et avançons à vive allure vers le communisme. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de viande dans nos assiettes ? Parce que les bêtes n'arrivent pas à nous suivre aussi rapidement. » Donc tout le livre est truffé comme ça d'anecdotes, montre que ce peuple-là avait beaucoup d'humour. Et puis, donc on est vraiment dans l'histoire, on est dans l'anecdotique, dans les souvenirs intimes de cette chroniqueuse. Et puis elle rajoute quand même quelques critiques et quelques recettes, puisque le livre était aussi...
Quel genre de recettes, qu'est-ce qu'il y a comme recettes?
Alors les recettes, c'est les recettes vraiment de la cuisine slave, hein, de la cuisine russe. Alors c'est le roulé au pavot, c'est la vatrouchka, c'est tous les pirochki.
Oui, les choux, les betteraves.
Les choux, la soupe de choux, la soupe de choux fermentée. La soupe à l'oseille, également la babka. La babka, c'est une sorte de kouvlof. Alors, c'est polonais, mais bon, toute cette cuisine slavisante. Le livre est intéressant pour ces recettes, pour ceux qui ne connaissent pas justement cette cuisine-là, pour ceux qui connaissent, qui ont vécu un petit peu les fils de Russes, ça ne donnera pas grand-chose.
À propos de l'humour, mon père travaillait à l'UNESCO et il invitait des fois des collègues donc, de l'UNESCO à dîner. Et un jour, il y avait le représentant soviétique à l'UNESCO. Donc. Et comme dans tous les dîners, tout d'un coup, il y a un arrêt et quelqu'un à table dit « Tiens, un ange passe ». Et ce monsieur avait dit « Chez nous, on dit un policier frappe à la porte
». Toujours cet humour, une espèce de second degré qui aide sûrement à vivre.
Une dérision, probablement.
Il y a plein de ça.
Vous avez goûté la cuisine russe, Julien Clerc ?
Non, je connais le borsch. Et encore, est-ce borsch que c'est russe ?
Ah, oui, c'est russe.
Vous êtes allé chanter en Russie déjà ?
Non.
Non ?
Les deux fois, figurez-vous, où il y avait une tournée préparée, j'ai annulé, en fait. Une fois, c'était Prague, quand ils avaient envahi Prague. Et la deuxième fois, je crois que c'était l'Afghanistan. Je n'ai pas eu de chance. Donc, les deux fois, évidemment, je me devais de ne pas aller là-bas par soutien pour les pays envahis. Alors, du coup, je suis jamais allé en Russie.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, comme dit l'expression, c'est la vérité. Je voudrais, avant de se quitter, qu'on finisse par quelques coups de cœur. Ça peut être culturel, ça peut être restaurant, film, spectacle. Julien Clerc.
Moi, c'est un livre.
Pour démarrer l'année.
Il faut dire que maintenant, nous sommes rentrés, mais nous avons habité Londres pendant 5 ans et demi. Et là-bas, j'avais pris l'habitude de lire en anglais, parce que je voulais vraiment faire le saut culturel. Donc, depuis, je continue de lire en anglais. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis sur Ken Follett. Donc, j'ai lu toute son œuvre. D'abord, ses grands romans qu'on connaît, Les piliers de la Terre, etc. Et maintenant, je me suis attaqué au dernier qui vient de sortir. D'abord, ce sont des romans historiques, quand même. Et c'est toujours très, très relié à l'histoire, et même la grande histoire. Donc, en gros, il a un système, Ken Follett. Il met ses héros au contact de gens qui en comptaient dans la grande histoire. Par exemple, dans Les piliers de la Terre, il y en a, ils travaillent avec le roi d'Angleterre de l'époque. Donc là, c'est formidable, ça s'appelle Never. Et l'autre chose que j'aime beaucoup chez Ken Follett, et ça, c'est pas courant chez un mec, chez un homme, c'est que les personnages féminins sont très importants. Et bien souvent, c'est les personnages féminins qui sont les moteurs de l'histoire. Dans tous les livres de Ken Follett, vous avez 1, 2 ou 3 personnages qui sont les personnages importants du livre.
Never, ça s'appelle.
Never.
Never. Ouais. Lilia Hassen, votre coup de cœur.
Je voulais vous parler du spectacle d'Alex Vizorek, qui joue en ce moment, qui s'appelle Ad Eternam, et qui est un spectacle d'humour sur la mort, ce qui n'est pas commun.
Donc au début, bon,
j'ai emmené ma mère et je lui ai pas dit le thème parce que je trouvais que c'était pas évident, mais c'est extrêmement drôle et ça fait du bien, justement, c'est une grande question métaphysique et de pouvoir se passer une heure et demie à réfléchir à tout ça, et j'ai adoré ce spectacle.
Alex Vizorek. Adrien Ferrand, votre coup de cœur.
Écoutez, moi, c'est un documentaire qu'on peut regarder sur un canal de visionnage de séries et de films américains qui est très connu. Je ne sais pas si on peut dire le nom.
Si,
sur Netflix.
Bien sûr.
Et ça s'appelle 14 Peaks. C'est un documentaire sur un alpiniste népalais qui s'appelle Nims, qui détruit tous les records d'alpinisme depuis que le monde est monde. En 6 mois, il monte les 14 plus hauts monts de la Terre, dont l'Everest, le K2, etc. Il fait ça en 6 mois et il veut vraiment montrer que les meilleurs alpinistes sont les Sherpas, les Népalais.
Oui, ça fait du bien de prendre de la hauteur pour démarrer l'année.
En effet, ouais.
Et vous, Emmanuel Rubin ?
Coffret de disques, 5 vinyles réunis. François Droubet, c'est l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Ouais. C'était aussi un aventurier. D'ailleurs, le coffret s'appelle Compositeur et aventurier. Pour la petite histoire, on dit que c'est aussi l'un des pionniers de la musique électronique. Il jouait de multi-instruments. Et bon, si je vous dis dernier domicile connu, si je vous dis le samouraï de Melville, tout ça, c'est François de Roubaix. Même si vous ne le connaissez pas, lorsque vous écouterez ses musiques, d'abord, il y a un vrai univers musical. Ensuite, ça vous renverra à certains grands films. C'est vraiment un univers musical. Et puis, c'est lui qui avait composé Chapi Chapeau.
Ah oui,
Chapi Chapeau. Oui, c'est ça, mais ce que j'adore chez de Roubaix, c'est son exactement. C'est son éclectisme. Et Chapi Chapeau, vous voyez, c'est devenu culte, hein, très samplé par le monde de la musique électronique contemporaine. D'ailleurs, Robbie Williams avait samplé le début de Dernier domicile connu.
Eh bien, je termine par deux coups de cœur. Les jours heureux, l'album de Julien Clerc, et c'est le nom de la tournée. Il vient de rajouter, Julien Clerc, quelques dates, 15, 16 et 17 décembre 2022 à l'Olympia de Paris. Vous l'aimez, cette salle, hein ?
Oui, je l'ai fait beaucoup.
Même si
ce
n'est plus la même, mais vous l'aimez.
Écoutez, c'est la même, parce que pour une fois... Ils avaient demandé, quand ils l'ont refaite, ils l'ont refaite à l'identique, et pour une fois, ils avaient demandé leur avis aux artistes, figurez-vous. Et je pense que ça leur a servi. La salle est exactement la même qu'elle était, pourtant elle est maintenant en sous-sol, et ils ont réussi à ce que les âmes des grands artistes qui sont passés dedans restent.
Exact, parce que Beko, que vous reprenez dans cet album et que vous reprenez sur scène, avait demandé pour la reconstruction qu'on laisse une petite trappe, je crois, en haut. Il y a une toute petite fenêtre, toute planqué en haut de la scène, et il avait dit que c'était pour laisser passer l'âme des artistes qui étaient passés dans cette salle.
Je ne savais pas.
Voilà. Vous regarderez, il y a une petite trappe au-dessus de la scène.
Gilbert qui continue de me parler de l'au-delà.
Exactement, et qu'on retrouve dans votre album. Et mon deuxième coup de cœur, donc Soleil amer chez Gallimard, de Lilia Hassen. Merci Lilia d'être venue
à
cette table.
Vous,
merci
super.
Infiniment Julien.
Merci de m'avoir reçu.
Merci Adrien Ferrand
merci
de nous
beaucoup.
Avoir régalé. On vous retrouve à table chez vous, chez Ilse et à la Brigade du Tigre. Salut Emmanuel Rubin. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, Thierry Dagiral débarque pour Europe Midi. Bon week-end sur Europe 1 et bonne année. Eh ben merci beaucoup.
Merci.
Merci infiniment.
C'est très agréable, c'est super.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Oui, c'est vrai, c'était très fort.
C'était parfait. C'était des fleurs. Mais là, c'est que de la légèreté.